disons, le début de Parashat Toldot. Écoutez, je vais peut-être prendre le sujet en train, et puis vous me direz si vous n'êtes pas trop décalé ou trop dépaysé. Alors, une minute. Bien, voilà. Nous avons vu que la naissance de l'enfant qui est attendu à la troisième génération de l'histoire des patriarches, ce devait être a priori Israël. C'est-à-dire Abraham, Yitzhak, et on attend Israël. Mais étant donné les impossibilités que nous avons déjà décrites dans les premiers cours sur ce sujet, vous me rappellerez si c'est suffisamment clair, alors il y a une stratégie de l'engendrement qui va apparaître, où cette difficulté de faire enfanter un enfant qui serait par la lignée d'Israël, fils d'Abraham, tzaddik absolu, mais par la lignée de Rivka, fille de qui ? Bethuel, sœur de Laban, il y a une ambivalence d'identité. Un tzaddik, fils de Rachar, n'a pas la même force dans ce qui se cherche dans ses engendrements qu'un tzaddik, fils de tzaddik. Est-ce qu'on a vu ça dans Rashi, donc, au moment de la prière de Yitzhak et de Rivka, Rashi fait allusion à cela. Et si l'identité d'Israël était déjà engendré, mais on est encore vers la fin, mais on est encore dans la préhistoire de l'identité d'Israël, l'histoire des avôtres. Et si l'identité d'Israël est déjà engendrée, alors cette différence entre tzaddik fils de Rachar et tzaddik fils de tzaddik n'a pas du tout la même portée par rapport à l'évaluation du mérite d'être d'un tzaddik, qu'il soit fils de Rachar ou fils de tzaddik. Ce sujet-là n'intervient pas lorsque Israël est déjà engendré. Je vais essayer d'éclairer ça par un autre exemple. Et nous avons vu que dans toute la recherche de la suite des engendrements à partir d'Abraham, il y a deux consignes qui sont déjà données par Abraham à Eliezer. Par exemple, pour Yitzhak, ne pas ramener Yitzhak d'où Abraham est sorti, de Okazdim, ce serait annuler le départ d'Abraham d'Okazdim. Vous vous rappelez, si vous voulez, je peux vous citer les versets exacts avec les références, sinon vous les cherchez vous-même. Et deuxièmement, de ne pas prendre de femmes dans le pays de Canaan, parce que l'identité d'Israël qui se prépare est destinée à remplacer Canaan, qui a échoué. Et si un mélange entre les engendrements pour Israël et l'identité de Canaan, il y a une identité monstrueuse qui apparaîtrait, un mélange entre Israël et Canaan, et c'est l'échec. Ce serait ni Israël ni Canaan, ce serait pire. Donc ces consignes-là ont force absolue tant qu'Israël n'est pas encore engendré. À partir du moment où l'identité d'Israël est là, alors il y a une adresse, il y a une maison, et quelqu'un de l'extérieur peut rentrer dans la maison, parce qu'elle existe déjà. Mais pour fabriquer la maison, il ne faut pas de mélange. Vous voyez, c'est clair jusque-là? Par exemple, nous verrons que la question va se poser pour la suite des engendrements pour les enfants de Jacob, devenus Israël. Avec qui, avec quelle femme ils se marieront pour la suite des engendrements d'Israël. C'est un sujet très important et qui fait partie déjà de l'histoire des Bnei Israël. Israël existe déjà, l'identité d'Israël est là. Alors nous avons deux midrashim essentiels sur le problème du mariage des enfants de Jacob, les Shvatim, les tribus, les fondateurs des tribus. Le premier midrash dit que chacun des enfants de Jacob est né avec sa jumelle et qu'il a épousé sa jumelle. C'est un midrash peu connu, que je vous signale, pour être complet, un peu plus complet sur le sujet. Simplement vous référer à ce que la Torah enseigne, à travers les midrashim en particulier, pour le premier homme, il est né avec sa jumelle. Et pour les premiers enfants du premier homme, Caïn et Abel, sont nés avec leurs jumelles. Ça veut dire, si au niveau de l'identité d'Israël est déjà achevée dans sa perfection, dans sa plénitude, alors c'est comme pour Adam Arishon avant la faute que chacun a sa jumelle et c'est sa femme destinée. Ça, c'est le premier midrash. Okay? Le deuxième midrash parle dans l'éventualité de l'identité humaine d'après la faute. La deuxième Midrash dit qu'ils ont épousé des Cananéennes, filles de Tzadikim. C'est aussi un sujet qui nous prendrait beaucoup de temps, mais en particulier, cela apparaît à propos de Shavuot, quand on étudie le chapitre, c'est le chapitre 38 de Bereshit, le mariage de Yehuda avec Tamar. Et que Tamar est la fille d'un tzadik de Knaan. Knaan est disqualifié en tant que klal, mais à l'échelle individuelle, il y a des tzadikim. Ils n'ont pas la force suffisante pour faire que le klal de Knaan soit sauvé, mais à l'échelle individuelle, c'est des restes d'identité tzadik. Et vous avez cet exemple, et on peut poser la question, comment Yehuda épouse une Cananéenne? Parce qu'il est déjà Israël. Et alors, même une Cananéenne, mais d'identité tzadik, peut devenir Israël, alors que les Cananéens, c'est interdit de les faire entrer en Israël. C'est le cas particulier, qu'on étudie d'ailleurs, bon, qui peut-être sait, sur le problème de l'échec effatoire, de la parenthèse. Et vous voyez ces deux midrashim. Mais tant que l'identité d'Israël n'est pas encore engendrée, alors prendre femme à l'extérieur est radicalement interdit. C'est clair? Alors l'identité de Rivka est encore ambivalente. Elle est tzadeket, mais batracha. Tandis que Yitzhak, il est tzadik, fils de tzadik. C'est clair? Et donc leur enfant serait cette entité monstrueuse qui serait totalement sadique d'un côté, totalement rachard de l'autre. Ça, nous avons étudié cette thème. Donc, engendrer directement un enfant à la troisième génération est impossible. C'est pourquoi la Torah dit que Isaac et Rebecca ne pouvaient pas enfanter. C'est clair? Et nous avons vu que les deux prient pour prendre le risque quand même. Quelle est la stratégie de l'Ashgacha? C'est de séparer la difficulté en deux. Deux enfants vont naître, jumeaux, un qui est Esav et l'autre qui est Jacob. Donc, on va avoir une séance, peut-être la dernière d'ailleurs, qui est importante. J'essaie de vous expliquer qu'il n'y a pas de prédestination jusqu'à ce moment-là, que Esav soit prédestiné à être rachat et que Jacob soit prédestiné à être tzadik. C'est, il y a une prédestination, et peut-être que le mot n'est pas exact non plus, des vocations. Ce que Esav va choisir, et c'est son goral, c'est la vocation des tâches matérielles dans le monde. La homriut, olamazé. Ce que Jacob va choisir, c'est la vocation des tâches spirituelles. Ça, c'est dès le sein maternel. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, l'un comme l'autre, c'est la liberté du mérite, de la volonté qui fait qu'il sera tzadik ou rachat. Et on a vu que Esav a choisi la vocation matérielle, il est devenu le rachat de la vocation matérielle. Jacob a choisi la vocation spirituelle, il est devenu le tzadik de la vocation spirituelle. Je crois que c'était là qu'on est arrivé. Donc, et j'ajoute donc ceci, c'est important comme sujet, quelle que soit l'option de vocation, spirituelle ou matérielle, on peut être tzadik ou rachat. Alors c'est évident qu'on est habitué à l'idée que la vocation matérielle s'amène à devenir rachat, que la vocation spirituelle s'amène à devenir tzadik. Il faut corriger ça. C'est pas du tout évident. Un homme de la vocation matérielle peut être tzadik. Exemple, dans la génération suivante, Yosef. C'est clair. Et c'est pourquoi le Midrash met en évidence que c'est Yosef qui va disqualifier Esav. Si non, Esav, c'est Yosef. De la même manière, un homme de la vocation spirituelle peut être le dernier des crapules, Khomeini. Vous voyez ce que je veux dire? Ne croyez pas que, parce qu'on s'occupe de l'esprit, alors on est un ange. On peut être un démon. Voilà, je pense que c'est clair. Donc, c'est là qu'on est arrivé. Alors, je vais reprendre un premier schéma. Normalement, d'après la tradition des Hébreux, on n'est pas encore à la tradition de la Torah, d'après la tradition des Hébreux, c'est le premier-né qui aurait dû être l'homme de la vocation spirituelle. C'est le premier-né qui est le Kohen. Et par conséquent, normalement, c'est Esav qui aurait dû, par la naissance, choisir les tâches spirituelles. Et pour lui, qui est le puiné, le cadet, si vous voulez, lui, par la naissance, aurait dû être voué naturellement aux tâches matérielles. Ce qui s'est produit, c'est un changement de vocation qui va commencer à nous faire comprendre la position d'Isaac dans ce puzzle. pauvre, Isaac se rend compte que Ésaü, qui naturellement aurait dû être le Cohen, a choisi la vocation matérielle. Et Jacob, qui naturellement aurait dû être le cadet, a choisi la vocation spirituelle, il en est heureux. Pourquoi ? Je vais essayer de vous expliquer ce premier chose. C'est le problème de l'unité des valeurs. Ce qui se cherche dans le récit de la Torah, c'est un homme capable de l'unité des valeurs. Or, si j'ai pour idéal ce qui est ma tendance naturelle, étant donné le problème qui se pose à nous, qui a deux vocations à réussir, la matière et l'esprit, l'homme vrai, c'est celui qui est tzaddik des deux à la fois. Vous vous rappelez qu'on a parlé un peu de ça. Je le répète, un homme qui serait que l'homme de la vocation matérielle, c'est l'échec de l'homme, parce qu'il est que de Olamazé, Olamaba perdu. Un homme qui n'a que la vocation spirituelle, c'est l'échec de l'homme, parce qu'il est pour Olamaba, mais il n'a pas de place dans Olamazé. Donc il faut un homme qui soit capable de l'un et de l'autre. Est-ce que c'est clair? On va avoir quatre schémas successifs avant des changements de nom, mais je vais aller lentement. Ce que la Torah cherche, c'est un homme qui serait Israël, c'est-à-dire capable de deux vocations à la fois. Jacob seul, seulement Jacob, c'est que l'esprit. Ésaü, seulement Ésaü, c'est que la matière. Israël, c'est au-delà. Est-ce que c'est clair? Ça, on y arrivera dans le changement de nom de Jacob en Israël. Alors je disais que, parce qu'il y a un grand étonnement sur la position d'Isaac, est-ce qu'il n'est pas au courant que Ésaü est disqualifié? Comment pense-t-il à transmettre la bénédiction quand l'heure va arriver de transmettre la bénédiction à la suite des générations? Il veut la transmettre à Ésaü. Est-ce qu'il n'est pas au courant qu'Ésaü est disqualifié? Vous comprenez la question? Donc, une réponse simple, il ferme les yeux. Ça veut dire, il n'est pas dupe. Au moment où il transmet la bénédiction, il avait la vue faible. Ça veut dire que ça nous permet de lui permettre de ne pas se rendre compte que ce n'est pas Ésaü qui est là, mais Jacob. Et ça, il y a quelque chose de beaucoup plus important encore. Comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il en est heureux à cause du problème de l'unité des valeurs. Et voilà, je reprends le raisonnement, c'est ça. Si un homme qui naturellement est porté à la matière, choisi pour idéal la matière, il n'a aucune chance d'être relié aux valeurs de l'esprit. Si un homme, parce que ça s'accentue, ça s'hypertrophie, et il est condamné à être que l'homme de la matière. Parce que non seulement c'est sa tendance, mais c'est aussi son idéal. Et de l'autre côté, si celui qui est voué naturellement à la vie spirituelle, choisi pour idéal la vie spirituelle, il n'a aucune chance de rejoindre l'autre dimension. Ça veut dire, dans ce plan-là, Ésaü le premier-né choisissant l'esprit, Jacob le puis-né choisissant la matière, il n'y a aucune chance que ce soit. Ils se sépareront définitivement. Est-ce que c'est clair? Pourquoi Isaac, lorsqu'il apprend, c'est le verset 27, « Vaï de l'eau en Eharim, les enfants grandirent, vaï Esavichodé à Tsaïtich Sadé, et Ésaü devint un homme du champ, de la chasse, du monde extérieur, et Jacob, un homme paisible, habitant les tentes, la maison d'études, et bien Isaac en est très heureux. Pourquoi? Parce que précisément, dans ce plan idéal d'Isaac, ce rêve, disons, si l'homme qui, par la nature, serait voué à l'esprit, choisit la matière, il y a unité des valeurs. Et si l'homme qui, par la nature, était voué à la matière, il choisit l'esprit, il y a unité des valeurs. Est-ce que c'est clair, ce raisonnement? Et on va voir que ce qui est arrivé est une catastrophe pour Ésaü. Ayant choisi comme idéal la matière, il se fait avoir par la matérialité de la matière, il devient rachat. Alors que Jacob, qui a choisi par option d'idéal les valeurs de l'esprit, n'a pas oublié de savoir faire à manger. Vous vous rappelez de ça? Ce premier schéma est clair, ok? Alors, le deuxième schéma que je vais vous proposer pour avancer dans le texte, c'est ceci. Ça, c'est le plan d'Isaac, c'est le rêve d'Isaac. Ésaü a choisi la matière, ben c'est très bien, ça va dans le sens de l'unité des valeurs, et on lui transmettra la bénédiction de la matière et il partagera avec son frère. Jacob a choisi l'esprit, c'est très bien, ça va dans le sens de l'unité des valeurs, il va avoir la bénédiction de l'esprit et il partagera avec son frère, et les deux sont sauvés. Mais le plan de Isaac, c'est un plan idéal. Rivka sait que ça ne peut pas marcher. Pour deux raisons. D'abord parce que Rivka sait que les frères ne s'aiment pas, donc ils partagent mon pain. Et par conséquent, elle veut les perdre tous les deux le même jour, comme elle va dire. Okay. Un problème très important. Que le rachat n'aime pas le tzaddik, c'est clair. Mais que le tzaddik n'aime pas le rachat, ça fait problème. Il y a deux catastrophes. Ésaü n'aime pas Jacob. Mais est-ce que Jacob peut aimer Ésaü? Est-ce qu'un tzaddik peut aimer un rachat? Quand tu fais allusion, si tu fais allusion, Rachikili, Vaïra, Yitzerlo, ah, c'est un autre sujet. Ça, tu es trop, comment dire, tu es trop gentil pour Ésaü. Ésaü reste le devenu rachat, il reste le rachat impénitent. Ishdamim. Il y a dans la Gemara une formule qui dit: celui qui a pitié des hommes cruels risque un jour d'être cruel pour les hommes dont il faut avoir pitié. N'oubliez pas ça. Amerachem et Tarzarim, a-t-il eu Tarzer à la Rachamani? Vous connaissez ce démon? Oui. Hein? Et c'est dans les journaux israéliens. Vous savez dire les choses. En parenthèse, mais c'est un problème sérieux. On assiste à cette tendance. Et des gens en Israël qui ont pitié des assassins et deviennent cruels pour les victimes. Vous avez remarqué ça? Alors, je vais en apporter. Si c'est ça la citation, c'est quand même un sujet un peu différent. Et donc, c'est la première raison pour laquelle Rivka va intervenir. Parce qu'elle sait qu'il n'y aura pas de partage. Et donc, Ésaü ne donnera pas de place à Jacob dans ce monde-ci. Et par conséquent, Jacob, n'ayant pas de place dans ce monde-ci, ne pourra pas arriver au monde à venir pour éventuellement partager le monde à venir avec Ésaü. Pardon, j'y reviens, mais je voudrais finir cette phrase. Et ça veut dire que vous remarquez que dans toute l'histoire d'Israël, les Goïms nous ont fait une histoire où il n'y avait pas de place pour Israël dans ce monde-ci. Remarquez ça. C'est-à-dire que ça s'est réalisé dans l'histoire. Sauf dans des ghettos. C'est-à-dire dans des pas de place. C'est une question que je pose, on va la laisser en l'air, c'est un problème important. On peut admettre que c'est Ouda, un fait, un rachat, n'aime pas le tzaddik. La Gemara dit que le Amaret n'a qu'un seul souci, c'est d'assassiner le tzaddik et de lui faire la shkita par la nuque. En plus. Mais mais l'inverse, ça pose un problème. Que j'ai donné aucune indication. Okay. Le fait que le tzaddik n'aime pas le rachat. Est-ce qu'un tzaddik peut aimer le rachat? Un tzaddik qui aime un rachat, c'est la complaisance, la complicité. Vous voyez jusqu'où ça peut mener? Okay. Non, il faut voir le problème tel qu'il est. Okay. Les mots ayant leur sens réel. Est-ce qu'un tzaddik peut aimer un rachat si on sait que c'est un rachat? Est-ce que c'est un tzaddik? Alors un tzaddik qui aimerait un rachat, c'est un tzaddik qui aime un rachat. Qu'est-ce que c'est un tzaddik qui aime un rachat? Vous avez compris la gravité du problème. Okay. Bon. Et ceci dit, nous avons une halakha. C'est que la haine du rachat ne doit pas porter sur sa personne, mais sur ses actes. C'est clair. On l'a appris à propos de l'air. Oshaï modenam, pardon. Mais c'est très difficile. Et on peut comprendre que Jacob n'aime pas Ésaü. Israël, c'est un autre niveau, donc, avec tous les dangers que ça représente. Une illustration demandée là-dessus d'Al-Khamandoha. Je pose la question à propos du Midrash qui dit qu'au moment de la sortie d'Égypte, Moïse et les enfants d'Israël ont chanté au passage de la mer Rouge. Ils étaient sauvés. Ils ont chanté, sur Atayam. Et là-haut, les anges ont voulu chanter. Et Dieu les a fêtés en leur disant: mes créatures sont enfouies dans la mer et vous voulez chanter. Ça, c'est le Midrash. En effet. Alors, la question que le Rav Kook a posée, c'est: pourquoi il a laissé Moïse chanter? Il fait taire les anges, mais il n'a pas fait taire les épreuves. Alors, il a répondu: en bas, c'est des Rechaim Gomorim. En haut, touchez pas. Dans le Shoresh de tout ce que Dieu a créé, c'est à haut. En bas, ils sont égyptiens sur la mer. Alors en bas, il faut chanter. En haut, les anges n'ont pas le droit de chanter. De là, on apprend que les anges passent leur temps à imiter Israël. Et c'est pourquoi Israël imite les anges. Mais ceci pour dire qu'il y a un raté de la générosité juive qui est dans l'ordre de ce midrash. Ça veut dire, quand on a affaire avec un SS, Amalek, alors Amalek, le chorège d'Amalek, touche pas. C'est Timhe, Zecher, Amalek, Mitahat HaShamayim. Mazé Mitahat HaShamayim, Lolemala, Mitahat. En dessous du ciel, annule Amalek. Sur le ciel, là-haut, touche pas. Bon, alors donc, on a une tendance congénitale de l'angélisme juif à dire la valeur de Amalek en haut, mais on la projette sur Amalek en bas. C'est ça l'échec. Est-ce que c'est clair? Amalek en bas, c'est Amalek en bas. Alors, il ne faut pas mélanger Amalek en haut et Amalek en bas. Suffisamment clair ce que j'ai dit là. Sinon, je peux vous donner des illustrations. Quand on nous dit, mais tel assassin qui veut nous attaquer, mais c'est un homme. Oui, c'est un homme en haut, pas en bas. Après, on a parenthèse. Il s'agit des cousins en plus. Et je reviens au thème. Alors, c'est la question qui se pose, c'est celle-là. Rivka va intervenir parce qu'elle comprend, puisque c'est elle qui a fabriqué ses enfants, elle les connaît mieux que le père. C'est encore un autre thème. La mère connaît mieux les enfants que le père. Quand la mère est une mère et le père est un père. Quand c'est le père qui est la mère et la mère qui est le père, ça change. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, lorsque les choses sont normales, alors la mère a une connaissance terrifiante de l'identité des enfants. Au niveau des femmes des patriarches, c'est Sarah qui intervient pour dire ça passe par Isaac et pas par Ishmael. C'est Rivka qui intervient pour dire ça passe par Jacob et pas par Ésaü. Pourquoi on parle dans la liturgie de Ava Rahman et pas, on s'attendrait que ce soit la mère qui soit compatissante, c'est le père qui compatisse. Et la mère, on dit, elle est Menachemet. Et c'est le père qui est Rahman. C'est-à-dire, le jugement de la mère sur les enfants est terrible. Est-ce que c'est clair? Parce qu'elle, bon, pour nous qui vivons une vie diluée, c'est un refoulé dans l'inconscient. Mais c'est elle qui les a fabriqués, et elle a une science absolue de quoi il s'agit. Rivka, deux jumeaux, et elle sait qu'il y a Jacob est en or et que Isaac n'est pas en or. Et que Ésaü n'est pas en or. Isaac, lui, c'est le père. Vous voyez, Ehav, Yitzhak et Esav. Verivka, Ohevet et Yav. Vous voyez comment ça se. Voilà donc la première raison. Le plan de Isaac ne peut pas aboutir parce que Rivka sait que les enfants ne s'aiment pas. Pour une raison, c'est le deuxième schéma qui est le plus important. Parce que il ne peut y avoir qu'une seule solution. C'est que Jacob, qui a la vocation de l'esprit, qui dans tous les cas va recevoir la bénédiction de l'esprit, qui s'appelle la bénédiction d'Abraham, et que Isaac donne à Jacob indépendamment d'Ésaü, c'est pas en question dans la substitution des bénédictions entre Jacob et Ésaü, celle-là, c'est la bénédiction matérielle. Je vous en ai référence. Paul, choisissant, qui a choisi la vocation de l'esprit, s'il reçoit aussi la bénédiction matérielle, ça reste en or. Pourquoi? Parce que l'homme de l'esprit, s'occupant de la matière, transfigure la matière. Tandis que si Ésaü, qui a choisi la vocation matérielle, reçoit aussi la vocation spirituelle, la bénédiction spirituelle, il va la rendre impure. Ça veut dire un seul des deux enfants peut être Israël. C'est Jacob devenant Israël. Ésaü se prétendant pour Israël, c'est la catastrophe. Or ceci s'est réalisé dans l'histoire, dans la rivalité entre Jérusalem et Rome, entre le judaïsme et la chrétienté. Et c'est donc pas pour rien que les rabbins, dès l'origine, ont indiqué cela. La civilisation humaine qui va incarner le profil d'identité d'Ésaü, c'est Rome. Il y a d'abord eu le stade de la Rome païenne. C'est Ésaü, vocation matérielle et que ça. Ensuite, nous voyons qu'il y a une sorte de repentir de Rome, ça devient la Rome chrétienne. Ça veut dire l'homme de la matière prétendant à l'identité d'Israël, c'est la chrétienté. Ça veut dire, c'est Ésaü se prétendant Israël, alors que Israël, c'est Jacob devenu Israël. C'est-à-dire, ce que nous allons étudier à la racine, au niveau de cette rivalité d'identité Ésaü-Jacob, les rabbins l'ont enseigné, dans l'histoire, ça se réalise dans la rivalité entre le judaïsme et le christianisme. On fera des va-et-vient entre les deux niveaux de lecture, un aidera l'autre à mieux comprendre. Je vais répondre ça un peu en anticipant sur les analyses, mais puis il faut voir que Ésaü, je donne la réponse à la fin de la paracha de Toldot, Ésaü a déjà un demi-repenti. Lorsqu'il s'aperçoit qu'il a été disqualifié de la bénédiction parce qu'il a pris des femmes de Canaan, alors le texte dit « Ésaü vit que les femmes de Canaan étaient mauvaises aux yeux de son père, il alla chez Ishmaël, prendre une fille d'Ishmaël, mais sans répudier les femmes païennes. » C'est clair ? Donc, alors que la Torah avait dit que lorsque Ésaü avait pris des femmes païennes, elles étaient mauvaises aux yeux de Isaac et de Rebecca. Ça veut dire qu'il n'y a eu qu'un demi-repentir de Ésaü par rapport à Isaac, pas par rapport à Rebecca. Et il n'a pas répudié les femmes païennes. Alors transposons ça par rapport au christianisme. Il y a eu effectivement un demi-repentir de la Rome païenne, et qui, dans ce demi-repentir, s'est prétendu Israël. Et ça a déclenché la rivalité terrible pour nous, que l'Église, le sort que l'Église a fait aux Juifs pendant 2000 ans. On ne peut pas oublier ça. Et c'est très parallèle. Ça veut dire Rome s'est branché sur le monothéisme sémite, mais sans du tout répudier les mythes païens. C'est la même chose. Est-ce que c'est un demi-repentir catastrophique, parce que ça a donné ça a donné la prétention, prétention de légitimation à Rome de se prétendre Israël, alors qu'elle reste païenne. Et vous voyez comme c'est parallèle, hein ? On se ressource chez Ishmaël, c'est quand même un fils d'Abraham, mais on ne répudie pas les femmes de Canaan. Un théisme, une trinité. Et j'ai pas fini. Vous allez me faire oublier. Alors que ce que nous avons appris précédemment, c'est que si Ishmaël fait tchouva, il peut être appelé tzadik sans avoir à devenir Israël. Vous rappelez-vous cela ? Donc, pour Esav, c'est tout à fait autre chose. Si Esav fait tchouva, il devient Israël. Il disparaît comme Esav. Est-ce que si le repentir de Rome s'achève, elle devient Jérusalem, il n'y a plus de Rome. Kacher, ça n'existe pas. Je reprends les termes de la Torah. Ishmaël, tzadik, ça existe. Esav, tzadik, ça n'existe pas. Halacha, Esav, ce milieu de Yaakov. Esav, tzadik, c'est quoi ? C'est Israël. Bon, si je décris. Si un chrétien achève son repentir, on verra de quel repentir il s'agit dans l'achèvement. Eh bien, il devient juif, uni. Okay ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, un chrétien, rester chrétien et s'étant repenti de la haine des juifs ? Ça n'existe pas. Vous allez me dire, dans l'existence, ça existe. Bien sûr, dans l'existence, ça existe. Mais vous remarquez que l'Église ne veut pas le reconnaître. C'est juste des nations chez les chrétiens qui sont en plein tourment, bien que chrétiens, ils se sont repentis de l'antisémitisme, mais ils restent chrétiens. Et est-ce que c'est clair ? Alors, je schématise en anticipant, je ne sais pas dans quel siècle, il arrivera qu'un jour, Ishmaël reconnaîtra qu'Isaac est chez lui, à Hébron. Vous vous rappelez que la scène se passe à Hébron ? Bon. Et il disparaît comme Ishmaël, ennemi d'Israël. Il disparaît du pays. Okay, bon. Il disparaît de l'histoire, d'ailleurs. Mais ça, c'est la Torah qui connaît. Tandis que, lorsque Esav reconnaît que c'est Jérusalem qui est Jérusalem et pas Rome, Esav disparaît. Le récit de la Torah. Comment ça va se passer ? Personne n'en sait. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est en train de se passer. Vous allez déjà avoir confirmation dans le verset. Et prenez dans la fin de la paracha, dans le verset 8 du chapitre 28. Tout ça, j'ai expliqué pour arriver au sujet suivant, que Rivka va intervenir pour que la bénédiction matérielle n'aille pas à Ésaü selon le plan de Isaac, mais aille quand même à Jacob. C'est clair ? Alors prenez le verset 8 du chapitre 28. Je vais vous dire à propos de l'histoire du christianisme contemporain, nous vivons une époque assez exceptionnelle. Pendant 2000 ans, les chrétiens, les églises, dans leur bonne foi propre, étaient persuadés que c'était eux Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pendant 2000 ans, les Romains priaient le Dieu d'Israël dans leur église et en étant persuadés que c'était eux Israël. Ils avaient un problème théologique insoluble, et les Juifs, c'est quoi ? Bon, eh bien, les Juifs sont restés dans l'histoire comme témoins de ce qui arrive à celui qui ne reconnaît pas. Vous vous rappelez de cette théologie chrétienne, okay ? Subitement, ils s'aperçoivent que c'est les Juifs qui sont Israël. Imaginez le drame de la conscience des chrétiens. Rome est crucifiée. Et ils découvrent non seulement que ce n'est pas eux Israël, mais que c'est les Juifs. Vous voyez pourquoi Rome ne peut pas reconnaître Jérusalem ? Et alors, comment formuler cela ? Comment c'est possible que pendant 2000 ans, les Romains se sont pris pour Israël ? Et maintenant, ils commencent à pressentir que peut-être c'est pas vrai. Avec leur drame. Okay. Et alors, que sera ? Mais rappelle-moi qu'on est au verset 5. Non, c'est 5. Hein ? Attends. Oui. Alors, je reviens un peu en arrière. C'est pourquoi j'ai un peu insisté là-dessus. Le père protège ses enfants parce qu'il est le père et que c'est les enfants. Okay. Ça, quand vous serez familier plus avec les formulations du texte du Midrash, vous retrouverez cela. Regardez Abraham, okay. Comment il a protégé Ishmaël et qu'est-ce que ça nous coûte dans l'histoire, cette protection d'Abraham sur Ishmaël. Okay. Ishmaël, Kiriel et Fanny. Isaac, c'est du valident. Isaac aussi. Mais je ne suis pas encore arrivé là. Okay. De la même manière, Isaac, jusqu'au bout, il fait comme si c'est pas vrai qu'Esav est un rachat. C'est un rachat. Où Esaü trompe son père en lui ramenant du gibier, en lui disant c'est kasher, okay, halak. Comment on s'appelle kasher ? Alors c'est la chasse. Alors il explique les flèches, je les aiguise, je les montre, chochet, à mon rabbin, et tu peux manger tranquillement, les yeux fermés. Et il lui pose des questions de halakha. Comment on fait la dîme du sel ? Alors Isaac dit, mon fils, qu'il est pur. Jusqu'au bout. Vous croyez qu'Isaac est dupe ? Il n'est pas dupe. Il est père. Et alors, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Nous avons perdu, l'humanité moderne est psychologiquement diluée. Nous avons perdu ces réalités psychiques au niveau où on parle la Torah. Que la mère connaît, dans le sens total du mot connaître, qui est son fils. Le père, il est hors du coup. Je vous donne un exemple dans les textes. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, okay. Ab, il est Rahman. Le jugement de la mère sur l'enfant est terrible. C'est Midat Adim, la mère. C'est une surprise qu'on a en train d'étudier les Midot. C'est le père qui est Midat Hesed. Et c'est la mère qui est Midat Adim. Alors que dans la littérature de la chevalerie du Moyen-Âge, comment on appelait ça, j'ai oublié, les romans, le roman de la rose, vous vous rappelez de ces choses-là ? Donc, alors on voit la mère qui est gentille, et le père, c'est le guerrier. La vérité, c'est l'inverse. Réfléchissez bien à ça. Et je vous donne un exemple. Vous avez une Mishnah qui nous dit, « Ezeu Chacham, Aroé et Anolad. » De qui on peut dire qu'il est Chacham ? C'est de celui qui prévoit les conséquences. Mais regardez comment c'est formulé. Aroé et Anolad. Ken ? Aroé et Anolad. C'est la sage-femme. Elle voit celui qui est en train de naître. La Chochma, elle est chez la femme d'abord, cette Chochma-là. Aroé et Anolad. Est-ce que vous comprenez en hébreu ? C'est clair ? Donc. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara dit qu'on a eu des prophètes et des prophétesses, mais que les prophétesses étaient plus prophètes que le prophète. Une Gemara. Ken ? Et on l'apprend de Sarah. Et d'Abraham, puisque Dieu dit à Abraham, tout ce que te dit ta femme, écoute. De là, on apprend que les prophètes femmes sont plus prophètes que les prophètes hommes. Parce que qu'est-ce que c'est que la prophétie? C'est la sagesse des engendrements. Alors, qui possède cette sagesse? C'est la mère plus que le père. Vous voyez, c'est elle. Donc, réfléchissez bien à ça. Vous savez quand j'ai dit quoi? Secouez la tête quand je disais quoi? Non, je vous après. Le cerveau est annulable. Hein? Oui, ça veut dire que. Reprenez le pshat de la Mishnah. La Mishnah, les petits cerveaux, va nous donner une définition de la Chorma. Qui est Chacham? C'est celui qui est capable de prévoir les conséquences de ce qui se passe. Okay? C'est déjà de l'ordre de la prophétie. Donc, si tu agis ainsi, voilà ce qui va arriver. Roé est annulable. Or, le pshat, c'est Roé est annulable, celui qui voit. Le bébé en train de naître, Nolad, il a fait. Qui c'est ça? C'est la sage-femme. Regardez, même en français, c'est tombé. La femme sage. C'est la place importante de la mère et de la sœur de Moïse, et qui étaient les sages-femmes d'Israël. Et c'est qui? La mère et la sœur de Moïse? Mais en fait, c'est suffisamment clair. C'est-à-dire, j'insiste donc là-dessus, Rivka sait que le plan de Isaac ne marchera pas. Bon. Côté. D'un autre côté, on change de vocabulaire, Yitzhak est le tzadik l'amin al-Din, mais l'amin al-Din de l'unité des valeurs. Or, Esav, c'est l'amin al-Din en dehors de l'unité des valeurs. Alors, Isaac a une zika vers Esav parce qu'il y voit sa mida, l'amin al-Din, défiguré, mais c'est sa mida. De la même manière pour Abraham et Ishmael. On voit dans Ishmael l'amin al-Din. Et c'est la Midrash Hesed, la Sifra Achra, de la Touma, mais c'est la Midrash Hesed. Alors il y a une complaisance. Voilà, ça va juste. Voilà pourquoi Rivka va intervenir. Alors on va voir comment elle va intervenir, mais c'est très simple. Elle va donner la possibilité à Jacob de se substituer à Ésaü lorsqu'Ésaü viendra, suivant le plan de Isaac, recevoir la bénédiction matérielle. Alors là je voudrais étudier avec vous un verset qui nous remettra toutes ces analyses. Lorsque Isaac s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et c'est verset 22 du chapitre 27. On va prendre un peu plus haut. On va prendre plus haut. Verset 18. Voilà, Rivka a préparé un repas, et vous rappelez que, ça on verra plus loin, Jacob sait préparer les repas. Et pas n'importe quel repas. Le repas qui rend la vie à celui qui a perdu le goût de vivre. Quand Ésaü va arriver du champ, pas affamé, le texte dit fatigué, aïe. Et que Jacob était en train de préparer un plat dont Dafka, celui-là, c'est celui-là que Ésaü voulait. Il dit, donne-moi ce plat-là, sinon je vais mourir. Et alors que le Midrash met en évidence que la maison d'Isaac était très riche, il y avait des centaines de serviteurs et de servants, si Ésaü, le fils aîné, le fils de la famille, rend du champ affamé et fatigué, est-ce qu'il a besoin de vendre son aînesse pour avoir d'Afka ce plat-là? Alors n'oubliez pas que Jacob sait faire à manger. Il ne s'est pas fait avoir par son livre. Bien qu'il a choisi le livre, eh bien, il sait faire les lentilles. Vous voyez de quoi je parle. Tandis qu'Ésaü, je reviens un peu en arrière, Ésaü, lui, s'est fait avoir par sa vocation. Il a choisi le monde extérieur, il en revient fatigué, jaloux, de vivre. On verra ça tout à l'heure. Donc Rivka a préparé pour Jacob, elle le déguise en Ésaü, elle veut obliger Isaac à donner la bénédiction matérielle à Jacob. Vous vous rappelez l'analyse de tout à l'heure. Jacob est l'homme de l'esprit. S'il reçoit la bénédiction matérielle, il transfigurera l'esprit, il unifiera les deux, le monde est sauvé. Si Ésaü, l'homme de la matière, reçoit la bénédiction de la matière, il ne partagera pas avec Jacob, il n'y aura pas de place pour Jacob dans ce monde. Et donc, le monde est perdu. Parce qu'il n'arrivera jamais au monde à venir. Super. Et elle dit, « Lama eshkal, gam shnechem, beyom echad. » Pourquoi je serai veuve de vous deux le même jour? C'est-à-dire, elle a peur de les perdre tous les deux. C'est clair jusque-là. voilà que Jacob, nanti des Mashamim préparés par Rivka, verset 18. Vayavo et Avi, il vint vers son père, Vayomer Abi, et il dit mon père, Vayomer Ineni, et Isaac répond, me voici, Miata Béni, qui es-tu mon fils? Est-ce qu'il avait besoin de lui demander qui tu es? Il attendait Esaü. Pourquoi il lui demande qui es-tu? Il disait, tu es sauvé. Verset 19. Vayomer Yaakov et Avi. Et Jacob dit à son père, regardez le texte, sinon je n'allais pas comprendre ce que je dis. Achi, Esav Bechorer. Alors on traduit, je suis Esav, ton aîné. Mais c'est écrit avec les accents, je suis, moi, Esav Bechorecha. Esav, c'est ton aîné. Pour la première lecture, je suis Esav, ton aîné. Regardez bien les termes. Quel? Achi, Esav Bechorecha. Asiti, j'ai fait, Kaacher Dibarta Elai. Comme tu as dit pour moi. Kumna, lève-toi donc, retenez ce Kumna, le Midrash va intervenir, Sheva, assieds-toi, Veochla, et mange, Mitzedi, de mon gibier, Ba'avour, afin que te barchani nafshecha, ton effet, ta personne, me bénisse. Le Midrash va mettre en évidence que la manière de parler va être différente de la manière de Esaü lorsqu'Esaü va venir après. Je vous indique au niveau de la lecture, Kumna, Sheva et Ochla, c'est un langage d'invitation mais poli. Hein? Il parle comme un fils parle à son père. Donc, il va lui parler comme un Esaü parle. Et vous voulez qu'on lise tout de suite le verset d'Esaü, vous allez prendre. Ça c'est une question, mais elle n'est pas dans le sujet. Prenez le verset 31, la madame. Vayas gamou matamim, et Esaü lui aussi a fait des matamim, et Vayavé l'aviv, il les apporta à son père, Vayomer l'aviv, il dit à son père, Yakum avi, que mon père se lève, Vayochal, qu'il mange, Mitzed beno, du gibier de son fils. Vous voyez, la formule a changé complètement. Okay. Ta question, on la verra après. Où est-ce que j'étais? Quel verset? Alors, verset 20. Il y a ici une indication très importante. Vayomer Yitzhak el Beno. Et Isaac dit à son fils, Mazemi Arta, que comment se fait-il que tu as fait si vite l'imtso de trouver ce que s'est demandé, béni mon fils? Parce que dès que Isaac envoyait Esaü chercher du gibier, pendant ce temps, Rivka a préparé pour Jacob, et Jacob est venu vite. Alors Isaac va mettre ça en évidence. Comment se fait-il que ça s'est fait si vite? Par les comportements de la nature, ça ne se fait pas comme ça. Il faut plus de temps. Il dit, c'est Jacob, pris pour Esaü qui parle, qui ikra Hachem elokecha lefanai. Car Hachem, ton Dieu, s'est révélé devant moi. Esaü parle comme ça. Il suffit qu'Isaac entende ça pour lui. Est-ce que c'est clair? Donc, il y a Jacob. Alors Isaac dit à Jacob, Geshana, approche-toi donc, la mouchra veni, comment dire en français, palpé. Ça veut dire. Oui, bon, je ne sais pas s'il y a un mot. Ha ta ze beni esavimlo. Est, hein? Pour les deux. Parce qu'il va parler de rear beradap, inspecter, quel? Est-ce que toi et celui-là, mon fils, est savent ou non? Oui, vous voyez bien qu'il n'est pas dit. Alors, verset 22. Vaïgaché à Kobe Yitzhak, à vivre, et Jacob s'approcha de Isaac, son père, Vaïmoucheu, et il le, comme vous avez dit, Vaïomer, et Isaac dit, Akol Kolia Akov et Adaïm Erez. La voix, c'est la voix de Jacob, et les mains, c'est les mains des hommes. Puisqu'il entend ce Esaü qui croyait qu'il était là parlait comme Jacob. Il y a un midrash qui indique qu'ils étaient jumeaux. Donc, ils avaient le même timbre de voix. Il ne s'agit pas du timbre de voix, mais de la manière de parler. On peut parler, c'est Jacob, et pourtant les mains, c'est les mains des hommes. Alors, ce verset est très important. Je finis. Ce verset est très important, parce que ça veut dire qu'il y a deux personnages différents dans le récit. Aux yeux d'Isaac, c'est un Esaü qui parle comme Jacob. Dans la réalité, c'est un Jacob qui a les mains d'Esaü. Vous voyez la différence? Alors, qui c'est ce personnage? qui est un Ésaü parlant comme Jacob, de nouveau retrouve la chrétienté. Chaque fois que j'entends un curé parler, citer la Bible, je me rappelle de ce verset. C'est Ésaü qui parle comme Jacob. Un Romain qui cite la Bible. Voilà ce que Isaac dit dans la suite, au verset 23, « Veloï Kiro, il n'a pas reconnu, qui a eu Yadav Kinea Esavachi, car ses mains étaient comme les mains de Ésaü son frère, c'est Hérode, poilu, vrai.